Bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien, même si c'est les vacances pour certains. Et pour les autres, j'espère que vous portez bien aussi. On va poursuivre notre étude du livre des Corinthiens avec le thème « Unis en Christ ». Et aujourd'hui, on va voir la fin du chapitre 9. Donc on a démarré avec Léon la semaine dernière. Et je vous propose d'ouvrir tout de suite vos Bibles et qu'on lise le chapitre 9, donc 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 19 et jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 19 jusqu'à la fin. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps, je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Prions juste avant de commencer. Ô Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Oui, Seigneur, merci pour la possibilité de pouvoir ouvrir la parole encore ensemble, aujourd'hui, en 2025. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous parles maintenant. Ouvre nos cœurs, débarrasse-nous de tout ce qui peut nous préoccuper, nous charger, de la fatigue ou de tout le reste. Seigneur, rends-nous poreux à ta parole et change nos cœurs. Seigneur, qu'on soit enraciné en toi et qu'on s'y conforme tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Tout comme la semaine dernière, on va parler de liberté. Et Léon, la semaine dernière, nous disait que la liberté était un moyen de bénir les autres. Et si vous ne l'avez pas écouté le message, vous pouvez l'écouter en replay, est vraiment très instructif. Mais ce matin, on va plutôt regarder l'aspect de la liberté qui concerne les autres. Comment notre liberté peut-elle contribuer au salut? Ou comment sauver les autres avec notre liberté? Et j'ai intitulé un peu dans l'esprit de la prédication de dimanche dernier, « Libre pour sauver ». La lecture de ce passage va y répondre assez directement, et c'est ce qu'on a vu dès le verset 19. Paul va affirmer quelque chose qu'il va développer ensuite dans tous les versets et qui va être un peu la ligne conductrice de sa réponse à comment la liberté peut nous aider pour le salut. Et au verset 19, il dit « En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Bien que libre, lui en tant que chrétien, il se fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et c'est notre premier point, le premier point ici. Toute notre liberté au service de l'Évangile, des versets 19 à 23. Paul va détailler différents contextes auxquels il a été confronté et comment il a réagi dans ces différents contextes. Et c'est ce qu'on lit dans la suite à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Il va parler des Juifs et de son attitude face aux Juifs. Il va parler de ceux qui sont sous la loi de Moïse, de ceux qui sont sans la loi, donc les non-Juifs ou les païens. Il va parler des faibles. et il va dire la motivation de son caractère ou de son comportement face à ces gens-là. Avec les Juifs, il s'est comporté comme un Juif. Et Juif ici, il faut le comprendre comme un contexte plutôt ethnique, contrairement au verset 20b qui va parler de la loi et qui va parler plutôt de religion. Ici, les Juifs, c'est Paul s'est comporté comme un Juif. Il s'est comporté comme un homme de race juive afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui étaient sous la loi de Moïse, il s'est comporté comme s'il était sous la loi de Moïse. Et il le précise bien que lui-même ne soit pas sous la loi de Moïse, afin de gagner ceux qui sont sous la loi de Moïse. Avec ceux qui sont sans la loi, il s'est comporté comme s'il n'avait pas la loi. Même s'il précise qu'il est soumis à la loi de Christ, mais tout ça afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Et avec les faibles, il a été faible aussi, afin de gagner les faibles. C'est un principe assez simple qu'on peut comprendre. C'est une stratégie assez intelligente d'ailleurs. Il s'accommode au contexte auquel il est confronté pour essayer de gagner les gens. Mais il est important de noter que ces gens ne sont pas des chrétiens et des non-chrétiens, et des gens qu'il cherche à gagner. Et donc, il va mimer leurs attitudes, leur ressembler dans leur manière de vivre, afin de les gagner à Christ. Pour l'exemple des Juifs, on peut imaginer qu'il a commencé à manger cachère, qu'il s'est soumis aux différentes fêtes juives, afin de gagner la proximité des Juifs pour leur annoncer l'Évangile. Pour ceux qui étaient sous la loi de Moïse, il a respecté les prescriptions de la loi, même s'il n'y est plus soumis, afin de les gagner, et ainsi de suite. Ma question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi se mettre dans cette situation, lui, Paul, afin de gagner ces gens? On pourrait penser que c'est assez simple. Il annonce l'Évangile, l'Évangile est vrai pour eux, il est vrai pour nous aujourd'hui. Pas besoin de franchir leur culture, de se rapprocher de ce qu'ils font, il peut juste dire l'Évangile. Mais on voit qu'il a le souci de faire le pont entre sa culture, son contexte à lui, et le contexte des autres. Et j'ai essayé un peu de transposer ici en 2025, à Bruxelles, si Paul était là. Peut-être que ça ressemblerait à ça. Il veut chercher à atteindre les musulmans, mais alors il est prêt à s'habiller comme eux, il est prêt à vivre au milieu d'eux, il est prêt à manger halal, il est prêt peut-être même à participer au ramadan pendant une journée, deux journées, à être invité à l'Aïd, mais tout ça dans le but de les gagner à Christ. Ou alors on peut imaginer que s'il veut atteindre la communauté turque, peut-être qu'il va aller s'installer à Saint-Jos, peut-être qu'il va participer aux fêtes des Turcs, qu'il va manger dans leur restaurant, participer à leur culture, mais tout ça avec le but de les gagner à Christ. Ou encore, s'il veut atteindre la communauté des skaters de Bruxelles, peut-être qu'il va s'acheter un skateboard, qu'il va apprendre à en faire, qu'il va se mettre dans un skatepark les week-ends, tout ça pour atteindre les skaters. Ou alors, s'il veut être avec les jeunes, peut-être qu'il s'achète un smartphone, qu'il installe TikTok, Snapchat, Insta, et qu'il commence à parler avec eux, tout ça dans le but de les atteindre. Alors vous vous dites peut-être que j'exagère et que je vais trop loin et que musulman, ouais, là t'as franchi quand même une barrière, mais si on y réfléchit dans le contexte, il est allé aussi loin. Et d'ailleurs, c'était un des reproches des Corinthiens. Toi, l'apôtre, qui prétend être le super apôtre, bah, ton message est un peu bizarre. Tu nous annonces un évangile vrai, et puis finalement tu nous dis ne mangez pas de viande sacrifiée aux idoles pour préserver les faibles, et toi tu vas avec les sans-loi et tu manges la viande sacrifiée aux idoles. Ou tu fais l'inverse, en fait une girouette. Tu te mets dans des contextes différents alors que tu prétends appartenir à Christ. Mais il explique ici que sa raison première, c'est afin de gagner les gens à Christ. Il est prêt à sacrifier sa liberté pour se mettre dans des situations qui ne sont pas les siennes, se mettre peut-être même à risque ou en danger pour annoncer la bonne nouvelle. Alors vous noterez qu'il n'a pas marqué qu'il était voleur avec les voleurs ou ivrogne avec les ivrognes. Et d'accord, la liberté reste dans le contexte de ce que Dieu prescrit, pas au-delà. mais il est prêt à franchir tous les ponts pour atteindre tous les contextes socioculturels afin d'annoncer l'Évangile. C'est un exemple qui frappe. Ce n'est pas anodin de lire que quelqu'un est prêt à faire tout ce chemin pour atteindre des gens. Et forcément, ça interpelle. Il est prêt à s'accommoder à toutes les cultures pour annoncer l'Évangile, sans se compromettre. Oui, ça interpelle. Ce principe que Paul met en œuvre, on peut s'interroger aujourd'hui, est-ce que nous, on est prêt à faire pareil? Est-ce qu'on serait prêt à se mettre à risque, à sortir de notre zone de confort pour gagner les gens à Christ? Il avait à cœur de propager la bonne nouvelle à toutes les nations. Il avait un objectif, le salut des autres. Il avait une stratégie, se faire tout à tous, s'accommoder à leur vie. Il avait un principe, flexibilité, mais sans se compromettre dans la limite de ce que Dieu permet. Et pour nous, est-ce que nous ici ce matin, nous avons ce même fardeau sur le cœur, parce que lui était prêt à faire ça pour la cause de l'Évangile? Et nous, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour évangéliser ou pour le salut des autres? À quels aspects de notre liberté on est prêt à renoncer pour que les autres soient sauvés? Sommes-nous tout simplement préoccupés par le salut des autres? Et question très franche, où est notre évangélisation? Où est-elle? En posant ces questions, je ne veux pas accuser personne ou vous mettre dans un inconfort. Je veux juste qu'on réfléchisse avec honnêteté sur notre rapport à l'Évangile et à comment on le proclame. Quand on parle d'évangélisation, il y a très souvent des freins. Ah non, non, je ne suis pas un évangéliste, c'est pas pour moi, c'est pas mon don, c'est pas mon caractère. Moi, je peux faire plein de choses, mais parler de Jésus aux autres, non, ça, je ne sais pas. Ou alors, ouais, je ne suis pas sûr que le message va intéresser ceux à qui je parle. Ou alors, il n'y a pas vraiment d'opportunité. Tu sais, au travail, c'est compliqué de glisser un mot de l'Évangile. Compliqué. Ou alors, je n'ai pas le temps. Mais il ne s'agit pas d'une question de volonté. Il ne s'agit pas d'une question de temps ou de caractère. C'est tout simplement le mandat que Jésus nous laisse en partant. Faites de toutes les nations des disciples. C'est la mission de l'Église. Ce n'est pas un sujet annexe, ce n'est pas une option dans notre vie. C'est notre objectif. Si on est une Église, on est une Église pour adorer Dieu, oui, et pour annoncer l'Évangile. Et de façon très simple, si nous n'annonçons pas l'Évangile, qui le ferait à notre place? Les non-chrétiens? Ou si nous n'allons pas vers les nations, c'est sûr que les nations ne vont pas venir d'elles-mêmes et frapper à la porte de la rue du Moniteur et s'installer. Non, ça n'arrivera pas. C'est notre charge, c'est notre mission, c'est notre rôle. Et il faut le reconnaître, c'est compliqué, et il faut le reconnaître, on n'est pas toujours à la hauteur. Et c'est vrai que ce texte montre la stratégie de Paul ou son principe et son souci fondamental de le faire, mais quelque part, ce même texte nous encourage nous aussi à nous lancer dans l'évangélisation, à ne pas rester assis dans l'Église entre nous, dans notre confort, mais à aller au-delà de ça pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas. Et je veux juste donner ici 3 pistes pour nous encourager à aller annoncer l'Évangile. Il est clair que pour évangéliser, il faut connaître le message qu'on va prêcher, et ce message, c'est l'Évangile. Et ça, c'est la première priorité. On devrait s'exercer à connaître ce que c'est que l'Évangile. Et je ne pourrais pas le faire ici en détail, il y a beaucoup de textes de la Bible qui en parlent, mais au moins un texte nous en parle assez clairement et nous décrit ce que c'est. Et c'est Romains 1, au chapitre 16, qui dit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Et au verset 17, il rajoute « En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Oui, le message de l'évangile, c'est le salut offert par Christ, par la foi en Christ qui s'est sacrifié à la croix. Mais c'est aussi, on le voit dans ce passage, une puissance qui change les gens et qui les transforme et qui est encore à l'œuvre dans nos cœurs, même si nous avons cru. C'est un message qu'il est possible d'être sauvé pour tout le monde aujourd'hui. Et dans son sens, bonne nouvelle, justement parce que le salut est arrivé et que les gens peuvent être sauvés. Ils ne sont plus tout simplement perdus et pas le choix d'être autre chose. Ils ont l'opportunité d'être sauvés. Et c'est clair, on peut partager l'évangile que si on comprend son message. Et c'est un premier effort qu'on doit faire. Comprendre le message de l'évangile et s'y soumettre nous-mêmes. Réaliser que ce message est une puissance qui change les gens aujourd'hui. Et vous avez pour preuve, nous tous ici ce matin, dans notre diversité, dans nos arrière-plans complètement différents, si on est ici, ce n'est pas parce que quelqu'un a une technique superbe pour nous parler de quelque chose, ce n'est pas parce qu'on trouve du chauffage ou des bancs confortables, c'est parce que le message de l'Évangile nous a touchés et qu'on y a répondu favorablement et qu'on est là parce qu'on y répond toujours favorablement dans nos vies. Et c'est le premier point, connaître l'Évangile et continuer à être renouvelé par elle. La deuxième chose pour nous encourager, c'est comprendre la culture qui nous entoure. Et c'est un sujet majeur et qui est quelquefois en sous-texte de l'Évangile. L'Évangile a toujours cette notion de croiser les cultures, d'aller au-delà d'une culture elle-même. Si on regarde dans l'histoire, ça a été d'abord le peuple juif, et il fallait venir chez les Juifs pour voir ce que Dieu faisait. Mais maintenant, l'Évangile part de chez eux et inonde le monde. La preuve, Paul est à Corinthe, loin de chez lui, pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est la même chose, si nous ici, vu la diversité qu'on représente, si on a cru, c'est parce que des gens ont franchi leur culture pour nous parler. Et pour répondre à ce message d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, en fait, Bruxelles est peut-être le contexte le plus simple pour le faire. On n'a pas besoin d'aller très loin. Juste en regardant autour de nous, on a le monde qui est autour. Quand vous vous baladez, vous entendez une dizaine de langues différentes. Parce que c'est Bruxelles, centre de l'Europe, tout le monde y vient. Alors la seule chose qu'on pourrait faire, c'est comprendre ces cultures, s'intéresser aux gens qui nous entourent, voisins, collègues, amis de cours, potes, voir leur culture, la comprendre, faire le pont, aller vers eux, avec pour but annoncer la bonne nouvelle. Faisons l'effort de connaître ceux qui nous entourent. Ne restons pas juste sur nos positions, sur ce qu'on connaît, avec les gens qu'on aime et qui ressemblent à notre culture. Non, faisons l'effort de sortir de notre culture et d'aller vers les autres. Tout comme Paul le fait et à son imitation. Et le troisième encouragement, c'est l'Évangile est lui-même un moteur. C'est assez drôle parce que on pourrait penser qu'on doit chercher de l'énergie ailleurs ou une motivation ailleurs pour annoncer l'Évangile. Mais dans le message de l'Évangile, il y a la motivation. Tout d'abord, au verset 23, Paul va dire « Je fais tout cela à cause de l'Évangile, certes, afin de partager ses bénédictions. » C'est la mission que Dieu nous donne, mais elle est riche en récompenses au bout. Elle apporte à la fois bénédiction aujourd'hui pour nous, parce qu'on est sauvés, qu'on est délivrés du péché et de la mort, qu'on jouit de toutes les bénédictions de l'Évangile, mais ultimement au bout, on aura la récompense du serviteur qui aura annoncé l'Évangile et qui l'aura porté loin. C'est un premier moteur. Mais quand on y pense même, dans l'essence même de ce que c'est que la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un s'identifie aux autres pour leur salut. Et quand on prend du temps pour y penser, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Lui qui était Dieu, roi de toute éternité, créateur de toutes choses, assis sur le trône, au-dessus de tout, dans une relation d'amour de la Trinité, il a renoncé à cette gloire. Il est descendu sur la terre, il s'est identifié à l'homme, à nous, humanité perdue et rebelle. Il s'est fait homme, il a habité parmi nous, il s'est identifié en nous en tout point, jusqu'au point de prendre tout notre péché et de mourir à la croix afin de nous donner sa vie. C'est le moteur ultime de l'Évangile. C'est qu'on a l'exemple, mais on est le résultat de l'action de Christ. Il n'y a pas plus grand moteur que ça. Christ lui-même l'a fait. Il a franchi cette différence pour venir vers nous. Nous pouvons le faire. Et en le faisant, il promet d'être toujours avec nous. C'est le moteur pour l'Évangile. Ce que Paul fait pour l'Évangile, c'est qu'il nous incite à faire nous aussi, n'est qu'un pâle reflet de ce que Jésus a fait. Christ à la croix est le miracle de l'Évangile. Il porte notre péché, il meurt pour nous, il nous sauve. On doit vraiment prendre le temps de contempler ces réalités. Rendre gloire à Dieu, rendre gloire à Christ pour son œuvre. Mais derrière, on doit aussi se lever et aller porter cette bonne nouvelle à tous ceux qui ne la connaissent pas. Si elle est bonne, la nouvelle, elle ne devrait pas rester enfermée au milieu de nous. Elle devrait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour nous, notre défi, c'est au moins dans Bruxelles, ce qui n'est pas impossible. Dans le deuxième point et dans la suite des versets, donc des versets 24 à 27, Paul va nous parler d'une autre réalité qui paraît peut-être décalée de ce qu'on a vu jusqu'ici, mais il va parler de prix, de course, de lutte, d'efforts pour remporter un prix. Le simple lien qu'on peut faire, c'est si on veut aller au bout, si on veut remporter la victoire finale, on doit annoncer l'Évangile, mais on doit aussi persévérer. Et c'est ce deuxième point, libre pour remporter le prix par la sanctification. Et donc des versets 24 à 27. Libre pour remporter le prix par la sanctification. Paul ici va illustrer sa vie chrétienne comme une épreuve sportive, où il lutte de manière dure afin d'atteindre le bout, de remporter le prix, de ne pas être disqualifié. Il va donner une exhortation et un avertissement dans ce court passage. L'exhortation, elle vient au verset 24. Il va dire, à la fin du verset 24, où il va dire « Courez de manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. » Et dans le contexte de Paul, quand il donne ses illustrations de course et de boxe, il pense aux jeux antiques qui avaient lieu tout proche de Corinthe et qui étaient ouverts à tous, où des jeunes hommes grecs venaient et se confrontaient à diverses épreuves pour remporter la victoire. Notamment, il y avait la course, le lancer de javelot, le saut, la boxe, la lutte, et différentes épreuves où tous pouvaient concourir, mais il n'y avait qu'un seul gagnant. Paul parle de quelque chose qu'il avait certainement vu lui-même et qui était familier de tous les Corinthiens. Et le cœur du sujet, de cette illustration de la course et du combat, c'est notre lutte contre le péché. C'est là le cœur de ce qu'il est en train de leur dire. Si la vie chrétienne est comme une course et que nous sommes comme des athlètes, alors nous devons mettre en œuvre rigueur et discipline afin de se donner une chance de gagner. Ici, l'essentiel n'est pas de participer comme dans les épreuves sportives en général, mais bien de gagner la course et d'arriver au bout. Au verset 25, il montre la rigueur de l'entraînement d'un athlète pour être vainqueur. Et je me suis dit, juste à titre de comparaison pour nous, j'allais regarder peut-être une athlète qui parle ici en Belgique, et j'ai pensé à Nafisa Toutiam, donc qui est championne olympique d'heptathlon, et j'ai juste regardé une journée d'entraînement de Nafisa Toutiam. Alors, il faut savoir qu'elle participe à peu d'épreuves, championnat du monde, championnat olympique, donc tous les deux ans. Pourtant, elle s'entraîne tous les jours de la même façon, tous les ans. Une journée type, c'est très tôt le matin, 6 heures, échauffement, des tours de piste pour avaler 5 voire 10 km, des exercices d'étirement sur la pelouse, suivi encore de bras, de jambes, de poids. Et ça, ce n'est que la mise en jambes. Ensuite, il y a l'entraînement spécifique dans toutes les disciplines, puisqu'elle en fait 7. Le lancer, les sauts, la course, où elle va se mettre des objectifs précis pour gagner des centièmes, pour gagner juste un millimètre, pour corriger un geste. Puis ensuite, elle va faire de la préparation mentale pour être sûre qu'elle est tout le temps au point, tout le temps motivée, tout le temps prête à affronter le défi. Puis, elle précise récupération et hygiène de vie, qui est capitale. Et elle précise, je considère que le travail d'un athlète ne s'arrête jamais. Elle mange comme il faut, elle mange ce qu'il faut, dans les quantités qu'il faut, aux heures où il faut, elle dort le temps qu'il faut, tous les jours. Une rigueur millimétrée pour un événement tous les deux ans. Et s'il se trouve que quelqu'un s'est mieux entraîné qu'elle, cette personne gagne. Et pourtant, elle ne lâche rien. Mais nous qui sommes en face d'un ennemi, plus terrible que la concurrence d'une course. Un ennemi redoutable, préparé, précis, dont les attaques sont redoutables. Qu'est-ce que nous mettons en place pour lutter contre le péché? Ok, on voit l'exemple de l'athlète qui va avoir de la discipline et qui va le faire jour et nuit, mais le diable est à l'œuvre, jour et nuit aussi. Et qu'est-ce que nous faisons pour lutter contre le péché? Parce que je le rappelle, et il est bon de l'entendre, le péché tue. Si on laisse le péché vivre en nous, il nous tuera. Les deux ne cohabiteront pas. Le péché tue. Est-ce qu'on ne prendrait pas un peu le péché à la légère? Est-ce qu'on ne devrait pas être un peu plus rigoureux dans notre lutte face au péché? Pourtant, on est exposé de toutes parts. On allume nos écrans, on est tout de suite exposé à toutes sortes de choses. Images, connotations, mots, sons. Avec les ados, on a regardé ensemble qu'étaient les paroles des chansons qu'on écoute régulièrement. Et peut-être pour 90% des paroles, elles parlent de sexe, de relations bizarres, incestueuses, de relations, de choses qu'on ne pourrait même pas évoquer, et pourtant c'est des musiques qui ambiance tout le monde. On est exposé au niveau des finances. On aimerait bien prendre des raccourcis, mentir dans nos déclarations, faire des choses un petit peu pour éviter de payer tout le prix fort des impôts, la convoitise, les excès, les addictions. Tellement de choses qui peuvent nous mettre la pression dans ce monde. Est-ce que notre lutte est adaptée? Et c'est là où Paul remet ce qu'il faut faire. Il faut se battre. Comme un athlète, rigueur, discipline, pour mettre à mort chaque jour le péché et ne pas le laisser proliférer. Chaque jour le mettre à mort et ne pas le laisser proliférer. Et c'est vrai que c'est une lutte personnelle, mais j'ai pensé à quelques pistes où on n'est pas seul dans cette lutte. Mais l'une des premières choses dans la lutte face au péché, c'est de reconnaître avec honnêteté qu'on est faible et qu'on n'est pas au-dessus de nos capacités et qu'on n'est pas aussi résistant qu'on voudrait le faire croire. Nos faiblesses sont grandes. C'est la première chose à reconnaître. Si je ne reconnais pas mes faiblesses, je ne peux pas mettre de choses en place pour éviter de tomber dans le péché. Les deux autres choses sont des basiques d'un chrétien. Mais si on ne passe pas du temps dans nos Bibles et si on ne passe pas du temps dans la prière, la lutte est impossible. Elle est même perdue d'avance. L'influence du monde nous bouffera et alors on sera perdu. On doit passer du temps dans nos Bibles, à lire le conseil de Dieu, à le méditer et à l'appliquer pour nos vies, tous les jours. Je rajoute aussi la communauté et la communion. Il est bien de se voir une fois par semaine le dimanche, mais ce n'est pas suffisant pour créer des liens et pour lutter ensemble. On doit créer des amitiés et des liens plus forts. Il y a d'autres occasions de se voir, que ce soit les réunions du jeudi, les groupes de maison, ou même tout simplement personnellement, créer des liens avec les autres pour s'armer dans la lutte face au péché. Et une chose qui marche bien et qui est souvent recommandée pour les jeunes personnes, c'est ce qu'on appelle la redevabilité. C'est « je vais chercher un frère qui, je sais, est digne de confiance, et tous les deux, on s'astreint à se voir régulièrement pour prier ensemble, partager nos luttes, méditer et s'encourager. » Et c'est quelque chose qui est généralement plus immédiat pour des femmes, quelquefois nous les hommes un peu plus réservés sur nos faiblesses, mais qui est nécessaire qu'on mette en commun nos moyens pour lutter contre le péché. Il faut faire des progrès chaque jour. Et c'est un peu comme l'entraînement d'un athlète. Si on n'est pas en train de progresser, on régresse. Il n'y a pas de statu quo. Si on n'est pas en train d'améliorer nos performances dans la lutte contre le péché, alors on est en train de laisser le péché gagner du terrain dans nos vies. Et je le rappelle, au bout, il tue. L'exemple de Nafissa Doutiam devrait nous motiver. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas avoir sa discipline pour le domaine sportif, mais au moins mettre en œuvre tous les moyens qu'on a. Et c'est intéressant parce que la fin du verset 25 est justement faite pour nous motiver. Je le relis. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Juste en regardant à cette motivation. Et c'est assez drôle parce que les médailles qu'ont reçues certains athlètes aux Jeux Olympiques ont commencé à s'oxyder ou à rouiller au bout de quelques semaines. C'est le fruit du travail de 4 années. Et au bout de quelques semaines, on ne voyait même plus les gravures dessus. Si on compare le temps qu'ils y mettent, l'effort qu'ils y ont mis et le résultat au bout, terrible. Mais ce que Paul nous dit, c'est courons-nous, mettons-nous de la discipline, travaillons sans relâche pour un objectif encore plus glorieux. Un trésor que les mythes ou la rouille ne pourront pas détruire, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, un trésor caché au ciel. Travaillons plutôt pour cet objectif, d'achever la course et d'avoir la victoire au bout. Je parlais d'exhortation et je vais finir par l'avertissement. Paul dit au verset 27 qu'il traite durement son corps. Littéralement, il se donne des coups. Il y va fort pour qu'au bout, il ne soit pas disqualifié. Alors ici, disqualifié, il n'est pas en train de parler de perdre son salut, mais plutôt du fait qu'il aurait annoncé l'évangile à beaucoup de gens. Il aura ouvert beaucoup d'églises, et comme ça arrive dans certains milieux, scandale, et alors il est obligé de se retirer, et alors tout ce qu'il a fait est discrédité. Toute son œuvre est remise en cause parce que lui est remis en cause. Et ça aussi, c'est un risque qui nous pend au nez. Si on travaille pour l'évangile, si on est témoin, si le message qu'on annonce est vrai, on doit être cohérent avec ce message et nous-mêmes être dignes de confiance. Et si on ne lutte pas contre le péché, on prend le risque de se discréditer et de discréditer le message de l'Évangile, ce qui est encore plus grave. Oui, notre liberté est précieuse. Notre liberté a été acquise à la croix par Christ, mais notre liberté n'est pas une fin en soi. Notre liberté devrait servir soit à gagner des âmes, soit à persévérer jusqu'au bout. Et pas juste être un motif de s'adonner au péché. Et juste pour terminer, Dans tous ces aspects, que ce soit l'évangélisation ou la lutte contre le péché, il y a une dimension personnelle, et c'est certain. C'est quelque chose qu'on doit faire nous-mêmes. Mais il y a aussi une dimension collective. C'est tous ensemble qu'on peut lutter contre le péché, et c'est tous ensemble qu'on peut annoncer l'évangile. Réalisons juste que ma place dans la chaîne est importante. Ma lutte contre le péché personnel est importante pour les autres. Mon annonce de l'évangile personnel est importante pour les autres. Parce que la somme des individus, c'est l'Église. Et ce n'est pas autre chose. Si on veut que l'Église annonce l'évangile, nous devons annoncer l'évangile. Si on veut que l'Église progresse dans sa sainteté, nous devons progresser dans notre sainteté. Au bout, ultimement, toutes ces choses, pour nous encourager à aller jusqu'au bout, et je ne veux pas relire Apocalypse 22:12 que Eric a lu tout à l'heure, mais au bout, c'est pour qu'à la rencontre de Christ, il nous regarde et il nous traite comme un vainqueur. Quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de la course, quelqu'un qui a remporté la course et qui a le trophée que rien ne peut détruire ou rien ne peut arracher, la vie éternelle en Christ. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour la liberté que nous avons en Christ. Par sa mort, par sa résurrection et par notre union à Christ, Seigneur, nous sommes libres. Merci parce que l'Évangile est efficace, Seigneur, il a été pour nous, il l'est encore aujourd'hui. Et Seigneur, il l'est pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, donne-nous un cœur vraiment sensible à la cause des âmes qui se perdent autour de nous, au milieu de nous, dans nos familles ou partout dans les contextes où nous sommes. Et Seigneur, donne-nous du courage d'aller vers ces gens, de faire des liens et d'annoncer l'Évangile. Et Seigneur, donne-nous de persévérer dans notre sanctification, de mettre à mort chaque jour le péché afin de remporter le prix au bout et d'avoir la couronne, Seigneur, qui ne périra jamais. Seigneur, que ton Église grandisse, que chacun, Seigneur, nous puissions grandir dans ces domaines-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen.